Bonsoir, Michel Murator. Nous nous retrouvons pour un alter regard. Ce soir, je vous propose un alter regard sur le théâtre. Et on dit aussi spectacle vivant. Alors, après le Covid, les directeurs de théâtre, les acteurs, craignaient que les Français ne se rendent plus au théâtre. Une enquête de Médiamétrie, les Français et le théâtre, du mois de juin, donne un résultat plutôt encourageant. Les Français vont de plus en plus voir des pièces, plus de spectacles qu'en 2019 avant le Covid, et plus de jeunes. Alors les jeunes, peut-être l'effet passe culture, on verra, et plus de spectateurs au théâtre qu'au cinéma. Et les spectateurs plébiscitent des thèmes comme la misère, l'écologie, l'homosexualité, le racisme, l'identité, en fait les thèmes sociétaux. L'ouest du département a été longtemps pauvre en propositions théâtrales. Certes, beaucoup de petites compagnies qui font un travail très intéressant, mais maintenant, on va commencer par Antea, plus de 13 000 abonnés, deuxième théâtre de France après la Comédie Française, théâtre que moi j'appelle plutôt généraliste, donc un peu de tout. La scène 55, plus orientée danse, Cannes, avec des représentations théâtrales au Palais et le Théâtre Alexandre et d'autres théâtres, et puis le Théâtre de Grasse, pour moi, géographiquement très bien situé, au centre de l'ouest du département, proche de la bande littorale et aussi, surtout, de l'arrière-pays, que l'on dit plutôt pauvre en termes de culture. Les habitants ont un sentiment d'abandon. Alors comment on constitue une programmation qui ne fasse pas concurrence? Un peu de tout, une ligne directrice. Nous verrons avec mes invités si elles sont d'accord avec moi et comment elles travaillent au Théâtre de Grasse. Donc mes invités, Emmanuelle Bourret, directrice, et Amandine Agelin, comme ça qu'on dit, secrétaire générale donc, du Théâtre de Grasse. Alors, Emmanuel, j'imagine qu'on ne se lève pas un matin en se disant « Maintenant, je vais être directrice de théâtre ». Quel a été votre parcours pour arriver directrice de théâtre? Vous étiez d'abord directrice adjointe. Et puis, pourquoi Grasse? J'imagine que la ville a aussi son importance. La ville et l'activité culturelle de la ville. Quand je dis la ville, c'est en termes d'activité culturelle.
Merci, bonsoir. Écoutez, oui, moi, donc, j'ai été directrice adjointe du Théâtre de Grasse et avant même, j'étais l'administratrice pendant de nombreuses années. Et j'ai un parcours, souvent les directeurs de théâtre, il n'y en a aucun qui a véritablement le même parcours et il n'existe pas un parcours type. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je travaille dans la culture, puisque essentiellement, j'ai travaillé une quinzaine d'années au ministère de la Culture, à Paris, en administration, au niveau du ministère central, dans différents postes. Et puis, j'ai travaillé également à la Villa Arson, École nationale supérieure d'art de Nice, avant d'arriver au Théâtre de Grasse, il y a maintenant une bonne dizaine d'années.
Donc c'est un parcours culture, entre guillemets,
oui.
Voilà, avec un passage, bon, le ministère c'est plus, j'allais dire, éloigné du terrain un peu, et puis après revenir sur le terrain, une école d'art avec la Villa Arson qui est une école nationale, donc vous avez un peu un cheminement dans un peu tous les arts.
Disons qu'au ministère, ça permet d'avoir une vision assez centrale, assez globale des politiques culturelles en France. Mais c'est vrai qu'en arrivant au théâtre et avant à la Villa Arson, j'étais déjà plus du côté du terrain. Et donc, c'est intéressant, vous voyez, de passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison d'employer le mot de spectacle vivant. D'ailleurs, le Théâtre de Grasse s'appelle Théâtre de Grasse parce que c'est le lieu qui est un théâtre, mais nous sommes vraiment un équipement de spectacle vivant puisque nous programmons du théâtre, bien sûr, mais aussi de la danse, mais aussi du cirque, mais aussi de la musique, de la marionnette, en fait, tout le spectre des disciplines du spectacle vivant. Donc c'est important de parler de spectacle vivant plus que de théâtre. Et souvent, on se rend compte que les gens n'imaginent pas, en fait, que dans les théâtre, il y a du théâtre, mais il y a aussi bien d'autres choses. Et,
oui,
et c'est important
après,
de le rappeler.
Voilà, on verra après comment, justement, avec toutes ces autres choses, on construit une programmation. Alors, et vous, Amandine, donc un peu la même question, être secrétaire général d'un théâtre, j'imagine, c'est pas comme n'importe quelle entreprise où on a un poste, il y a quand même une autre vision de la ville, de l'environnement, du travail même, et de relations avec l'équipe. J'aime bien parler d'équipe, donc on verra plus
Nous
tard.
Aussi. Voilà. Alors moi, donc, côté mon parcours, moi je suis née à Avignon, donc je pense que ça a prédestiné pas mal de choses dans ma trajectoire. Voilà, j'ai d'abord enseigné, j'ai été enseignante de français, et puis à un moment donné je me suis dit que c'était bien de faire de ma passion pour le spectacle vivant mon métier. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans différents théâtres en France, avant de voilà d'accéder à ce poste au Théâtre de Grasse et donc de découvrir les Alpes-Maritimes. Ça c'était il y a 7 ans, mon arrivée ici. Et puis en fait, je pense que tout est un peu lié, c'est-à-dire quand on choisit de travailler dans l'éducation au départ, puis après dans la culture, c'est qu'on a cette envie peut-être d'être dans des endroits où on aborde des choix. Enfin, on aborde des choses profondes et en même temps, voilà, de manière différente par rapport à d'autres entreprises. Enfin, voilà, donc la culture, c'est pas un secteur comme les autres, en fait. Voilà, on n'y aborde pas non plus les. Même si on est une entreprise, hein. Un théâtre reste une entreprise. Il y a de la billetterie, il y a des comptes, des recettes de billetterie, des logiques. Voilà, on fait du marketing maintenant. Enfin voilà, les théâtres se mettent à la page.
Des salariés.
Voilà, des salariés, tout ça. Mais voilà, c'est sûrement aussi des choix. Un choix de peut-être dans un milieu peut-être pas tout à fait comme les autres, en tout cas.
On vend pas des savonnettes.
Voilà,
voilà. Ça. Alors, toutes les deux, pourquoi Grasse ? Donc, vous êtes originaire de la région.
Eh bien, oui, j'ai même grandi à Grasse.
Voilà, oui.
J'ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac à Grasse. Et puis, comme beaucoup de jeunes de cette ville, quand on a la chance de pouvoir faire des études supérieures, généralement, on quitte la ville, bien que ce soit de moins en moins vrai, puisque notre mère a développé toute une offre étudiante ici à Grasse ces dernières années. Mais bien évidemment, il y a à l'époque où j'avais 18 ans, ça n'était pas du tout le cas. Donc, je suis partie à Nice d'abord. Et puis ensuite à Paris rapidement. J'ai vécu une vingtaine d'années à Paris, donc c'est là notamment que j'ai travaillé au ministère de la Culture. Et des envies personnelles avant tout m'ont conduite à revenir. C'est le retour, tel le retour d'Ulysse à Ithaque. Je suis revenue dans ma ville natale. Et voilà, je suis. C'est vrai que c'est merveilleux de pouvoir devenir la directrice d'un théâtre dans sa ville natale.
Ma question, voilà. C'est un peu ça, parce que on choisit pas, directrice de théâtre. Il y a la culture, effectivement, qu'on peut croiser, je dirais un peu n'importe où, mais on choisit quand même pas un poste n'importe comment, n'importe quoi. Quoi. Il y a vraiment sur Grasse, la ville de Grasse et la place du théâtre dans la ville, sans doute.
Oui, alors c'est vrai que j'ai un rapport du coup très intime, très proche à ce territoire. Quand on arrive, parce que ça arrive aussi dans des carrières, hein, d'arriver prendre la direction d'un théâtre dans un territoire qu'on ne connaît pas, heureusement que ça peut arriver aussi. On a un œil plus distant, peut-être une capacité d'observation différente que celle que j'ai, qui est vraiment construite dans le temps. Ma famille est établie ici, donc j'ai un rapport très fort à ce territoire et je suis très contente, très heureuse de pouvoir faire avancer l'offre culturelle sur ce territoire qui m'est cher.
Et Amandine Grasse ? On parle d'Avignon, effectivement, ça fait rêver. Mais le fait de se retrouver dans une ville comme Grasse, en fait, hein, c'est une petite ville avec un environnement plutôt éclaté, hein, c'est ça aussi. Je veux dire, quelle appétence, je dirais, pour cet environnement, pour cette ville.
Alors moi, peut-être ce qui est intéressant de dire, c'est que quand je suis arrivée au théâtre il y a 7 ans, c'était un moment où il y avait des travaux au théâtre. Et donc en fait pendant plus de 6 mois il n'y a pas eu de spectacle au Théâtre de Grasse, hein, et on a eu toute une saison itinérante où donc on a donné des spectacles à Pégoma, à La Roquette-sur-Siagne, à Péménade. Donc moi ça m'a permis d'apprendre en accéléré ce territoire que je ne connaissais pas, finalement. Et cette logique de se balader, ça fait partie de l'ADN du théâtre, hein, puisque chaque saison, là, on est revenu dans nos murs, donc il y a quand même un beau nombre de spectacles qui a lieu au Théâtre de Grasse, mais on continue d'aller en direction des publics éloignés ou non, puisqu'en fait, Péménade et Pégoma, ça reste des petites villes où les gens ont un accès à la culture facilité, tout ça, mais on va aussi se balader donc, dans le Haut-Pays régulièrement, où là, pour le coup, effectivement, je pense qu'on répond à un besoin qu'ont les gens de ne pas se sentir oubliés sur un territoire. Voilà. Et puis après, Grasse, ça reste un territoire assez challengeant, je trouve, puisqu'effectivement, c'est une ville avec plusieurs visages, avec un territoire pas forcément évident, puisqu'effectivement, nous, on est en plein dans ce centre-ville et il y a des hameaux. Voilà. Donc, il faut encourager les gens à venir jusqu'à nous. Donc, voilà, c'est un territoire assez passionnant.
Mais c'est ce que je disais dans mon introduction, tout l'arrière-pays se sent complètement abandonné. Moi, je vois les maires de l'arrière-pays, enfin du Haut-Pays même, disons, hein, Courme, enfin ces maires-là disent, nous on a droit à rien, quoi. Et donc c'est intéressant d'aller vers eux, alors, les faire venir. On est là, on dit toujours, ah il faut les faire venir. Comment on fait pour les faire venir? Mais peut-être qu'il faut réfléchir plus à aller vers eux. Donc on verra dans votre programmation comment vous allez vers ces territoires-là.
Et ensuite, il y a la programmation. Donc, c'est ce que les gens voient dans la brochure de saison. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, des spectacles qu'on va donner, par exemple, à Val-de-Roure. On en parlera tout à l'heure. Mais toute l'année, nous, par exemple, on accompagne financièrement des cours de théâtre qui sont donnés à Saint-Auban ou à Briançonnet. L'année prochaine, il y aura un projet autour des arts du cirque sur le moyen pays, c'est-à-dire de Saint-Vallier à Cabris. Enfin, voilà, il y a tout ce travail-là aussi de fond qui est mené chaque
dès
saison.
Le mois d'octobre. Hein.
Oui.
Voilà. Donc dans peu de temps, nous aurons un gros projet cirque, ouais, notamment dans le Haut-Pays.
Avec le Piste d'Azur.
En partenariat avec Piste d'Azur, mais c'est avant tout un spectacle que le Théâtre de Grasse propose, qui est l'implantation d'un chapiteau pendant 3 semaines, ce qui est assez exceptionnel comme durée. Et ce qui permet notamment justement d'ancrer des actions, de vraiment de profiter de cette présence artistique pour mener un certain nombre d'actions avec Saint-Vallier, la commune de Saint-Vallier, mais aussi les communes alentours, autour des arts du cirque. Donc ce sont les Rois Vagabonds. La première représentation sera le
10 octobre.
Le 10 octobre. Et à partir de là, une longue série. C'est très important d'en parler parce qu'on expérimente aussi pour des tas de raisons et aussi d'éco-responsabilité la question des longues séries. Vous voyez, parce que souvent dans le spectacle vivant, les artistes sont programmés, une date ici, une date là, etc. Et ça pose des questionnements à divers niveaux, notamment écologiques, économiques, etc. Et également aussi sur la possibilité pour le public de découvrir un spectacle, parce que quand il ne passe qu'une fois, évidemment, ça lui donne beaucoup moins de chances d'être vu que si le spectacle s'installe, que le bouche à oreille fonctionne. Voilà, donc on a cette opération assez exceptionnelle dans quelques semaines à Saint-Vallier, les Rois Vagabonds.
Mais donc, en fait, vous répondez à ce que je disais aussi dans mon introduction, la situation géographique de Grasse, qui, bon, pas loin du littoral, donc les gens de Cannes, Antibes, peuvent venir facilement, mais aussi au centre donc de cet ouest du département, et faciliter tout le moyen pays et le haut pays. Donc, moi, c'est ce que j'avais, que je disais dans mon introduction, et que vraiment j'avais ressenti par rapport à un théâtre à Grasse.
C'est très important de dire 2 choses à ce sujet. D'abord, sur la question des publics, la dernière fois qu'on a étudié très précisément la provenance de nos publics, et les chiffres n'ont pas tellement bougé d'ailleurs, même après le Covid, la répartition géographique, hein, on a à peu près la moitié des spectateurs et spectatrices qui viennent du territoire de l'agglomération du Pays de Grasse, et l'autre moitié qui viennent de plus loin. Donc souvent on ne se rend pas bien compte, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de spectateurs, spectatrices qui viennent du bassin Cannes, Antibes, même Nice, du Var également, du Haut-Pays, au-delà de la communauté d'agglomération. Et l'autre point important, qu'on j'aime bien rappeler, parce que c'est pareil, ça échappe un peu aux citoyens, aux spectateurs, et c'est normal, c'est que nous, Théâtre de Grasse, notre principe principal partenaire financier public, c'est la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Et donc, à ce titre, ça nous donne vraiment des missions, ce qu'on appelle un cahier des charges important sur ce territoire. Donc, évidemment, la communauté d'agglomération englobe Grasse, et Grasse en est la ville centre, et la plus nombreuse démographiquement, mais on a vraiment une mission qui rayonne sur l'ensemble de l'agglo. Et effectivement, on le voit dans la programmation, puisque
effectivement, ça fait partie de la question. Comment, quand on va tout à l'heure y arriver, comment, du coup, on construit une programmation qui prenne en compte des publics différents qui sont déjà habitués au théâtre, qui le sont moins, pour qui la sortie de théâtre, c'est vraiment un grand événement. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did it get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk apart in the Bonsoir, nous retrouvons donc pour un alter regard. Alors, Emmanuel ou Amandine ?
Donc là, les auditeurs viennent d'entendre un titre du groupe Birds on a Wire, qu'on programmera donc le 21 novembre prochain. C'est la réunion de deux filles extrêmement talentueuses, donc Rosemary Stanley, qui est l'ancienne chanteuse du groupe Moriarty, qui a une voix splendide, et donc qui est accompagnée d'une violoncelliste d'origine brésilienne qui s'appelle Dom La Nena. Leur répertoire est extrêmement large, donc elles adorent faire des reprises en fait, des reprises qui vont de la musique savante à la musique populaire en passant par la musique actuelle, c'est-à-dire qu'elles reprennent du Bob Dylan, du Leonard Cohen, mais aussi du Purcell ou des chansons un peu plus rares en fait, que les gens méconnaissent. Et là sur ce concert, c'est intéressant, c'est qu'elles se sont associées avec un magicien, un spécialiste de la magie nouvelle, comme on dit dans le spectacle vivant, et donc ça devrait en plus être très beau au plateau en termes de décor et de scénographie.
Voilà, donc on donne rendez-vous
le 21 novembre.
Alors, on va parler effectivement de programmation un petit peu. Alors, Emmanuel, c'est votre première saison à Grasse en tant que directrice, en responsabilité, on peut dire. Vous avez conçu ce programme avec quelle priorité, sur la base de ce qui était avant? Enfin, comment vous avez conçu votre première programmation?
La programmation écoulée, effectivement, était la première que je signais, comme on dit. Mmh. Et celle fait, qu'on vient de lancer sera la seconde. C'est une question compliquée. Comment construit-on une programmation? C'est un exercice assez, qui prend du temps, qui
On dit 2 ans pour une programmation, c'est ça? On est à peu près sûr.
Alors oui, il y a des choses qu'on programme 2 ans avant, effectivement. D'autres qui sont quand même un peu plus, un peu moins dans l'anticipation, heureusement.
Et par rapport aux saisons précédentes,
oui. Écoutez, moi, c'est à la fois la rupture et la continuité. Je vais dire, je pense que c'est comme ça que j'ai essayé de concevoir ça. La rupture, d'ailleurs, c'est un mot trop fort. C'est-à-dire que,
mettre votre patte.
Mettre sa patte petit à petit avec des artistes que j'ai choisis, des spectacles que j'ai choisis, travailler avec des artistes effectivement que je trouve intéressants. Donc ça apporte forcément une sensibilité, une patte un peu différente avec un changement de direction. Et en même temps, je pense que le public s'y est retrouvé aussi, n'a pas senti qu'il y avait une rupture, un changement radical. Je trouve que c'est un exercice différent quand on... Moi j'étais déjà au théâtre, donc j'ai pris la direction, je travaille déjà au théâtre. J'aime bien dire que j'ai hérité de quelque chose et que dans un héritage, il doit y avoir une part d'infidélité, vous voyez. On hérite de quelque chose, mais on peut être un héritier infidèle. Et on hérite de ce qu'on pense être bien, on a envie de poursuivre un socle qui nous semble être bien, et puis on a sa liberté aussi, sa propre...
Il y a un fil directeur quand même, disons,
dans une programmation
entre la saison précédente et votre saison à vous. Vous avez quand même un peu un fil directeur, c'est pas... Il n'y a pas de rupture totale, comme vous disiez, quoi.
Non.
Il y a quand même une continuité.
Tout à fait. Après, on a aussi, on est une scène pluridisciplinaire. On a des missions que nous donnent les collectivités qui nous financent, et c'est normal. Je veux dire, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est important de dire aussi, on ne fait pas exactement ce qu'on veut. Je ne peux pas dire, j'arrive et puis je ne fais plus que de la danse. Ça n'arrive pas.
Vous avez un cahier des charges qui précise la part de théâtre, la part de danse, la part de musique.
C'est pas formulé de manière forcément extrêmement précise, mais on se doit d'être un lieu pluridisciplinaire, dès lors ça veut dire qu'on doit proposer de la danse, du théâtre, du cirque, de la musique.
Une diversité dans l'offre.
Voilà, une diversité dans l'offre. On essaye aussi de veiller à certains critères, sans que ce soit non plus des lois absolues et qui nous phagocytent complètement. Mais bien entendu, on est attentif à la question de la représentation des femmes dans la programmation, à la question de la représentation de ce qu'on appelle la diversité aussi. Il y a des sujets de société aussi, qui me semble, dont le spectacle vivant se fait aujourd'hui l'écho et qui sont, c'est pas mal de fils conducteurs en fait. Je dirais pas qu'il y en a qu'un, il y en a de nombreux. C'est vrai que moi j'ai voulu apporter un axe important d'offres de spectacles qui peuvent s'adresser à la famille, en tout cas à toutes les générations, parce que je trouve que c'est important. De moi-même, en tant que maman, que mère de famille, je trouve que les moments de sortie au théâtre sont des moments importants qui permettent un petit peu de partager des choses. Donc c'est un axe important qui est poursuivi dans cette programmation. La famille et la jeunesse, d'ailleurs.
Oui, alors j'allais dire, et les scolaires. Parce que dans votre cahier des charges, alors, est-ce que dans le cahier des charges, je suppose qu'il y a de répondre, disons, d'amener le théâtre à l'école, mais est-ce que vous concevez une programmation, c'est un peu ce que vous avez dit, je fais une programmation pour la famille et du coup cette programmation-là, elle va bien pour les scolaires, ou bien est-ce que dans votre programmation vous dites, ah ben il faut que je pense à mettre du scolaire, voilà, comment, raisonnement il est dans quel sens?
Déjà, je dirais qu'il y a un nombre de spectacles, finalement, chaque saison, qu'on essaye de garder stable. Mmh. Donc, le Théâtre de Grasse, c'est toujours à peu près 45 à 50 propositions différentes par an. Ça ne veut pas dire représentation, hein, puisqu'un spectacle peut être joué plusieurs fois. Bonjour. Effectivement, ensuite, il y a un volet scolaire, ouais, donc il y a vraiment un choix qui est fait en fonction de différents âges qu'on doit toucher. Ça ne veut pas dire que de saison en saison, les choses restent stables absolument. Une année, on peut avoir envie de s'adresser aux enfants de 3 ans et à partir de 3 ans. D'autres années, ça sera plus vers les grands, vers le lycée. Voilà, enfin, donc en tout cas, c'était une magnifique saison qu'on vient de traverser là, avec un public qui a répondu quand même à l'appel de manière assez massive, donc une belle première saison.
Alors, j'imagine que le bilan de la saison vous sert aussi à construire la suivante, c'est-à-dire les spectacles qui ont plus ou moins bien marché, les différents publics que vous avez réussi à toucher. Bon, j'imagine que vous retenez compte aussi de ce bilan. Bon,
pas oui, alors c'est vrai terme, que sur la saison qu'on vient de passer, on peut dire que le bilan est vraiment très positif. Et en effet, moi j'aime beaucoup être présente les soirs de représentation, même si je ne peux pas être tout le temps là, parce que par définition, une fois que la saison est lancée, il faut que je prépare la suivante. Ben et oui. Pour préparer la suivante, je dois forcément me déplacer beaucoup. Mais quand même, je trouve important d'être présent aussi quand on accueille les artistes et quand on accueille le public, et de sentir la réception, ouais, d'être vraiment aux prises, au premier plan de cette réception. Et ça peut évidemment influencer. Vous voyez, cette année, on programme de nouveau Leïla K avec son solo et son duo, qui sont des créations qui ont déjà quelques années, mais parce que l'année dernière, dans la saison, on a programmé sa toute nouvelle création, qui est une pièce de groupe avec 5 danseuses au plateau, et ça a suscité un tel
engouement
vraiment une salle extrêmement touchée par cette proposition, que j'ai eu envie d'inviter de nouveau Leïla K dans cette nouvelle saison. Et ça n'a pas manqué. D'ailleurs, dès que ça s'est su, on a eu des réactions géniales, quoi. Génial, on va pouvoir revoir Leïla K. Donc c'est bien d'ailleurs d'avoir des fidélités avec des artistes, parce que c'est intéressant, je pense, pour un spectateur ou une spectatrice de découvrir différentes œuvres d'un même auteur.
Et puis il y a aussi tout un pourcentage aussi de création finalement dans une saison. Qu'on se doit de respecter là aussi, parce qu'il y a un cahier des charges, et ça veut dire que parfois donc Emmanuel fait la rencontre d'un artiste, connaît pas encore forcément son travail, mais va on va dire miser sur lui, sur la base d'un projet, d'une intention seulement, à ce moment-là
et
des
la
fois
et la compagnie
exactement,
alors
ouais,
du
des
coup,
fois ces compagnies viennent travailler au théâtre pour mettre au point le spectacle, et donc nous on découvre en même temps que le public le spectacle, voilà, parce qu'il y a ce pacte de confiance et cette mission d'accompagnement forcément pour accompagner des gens émergents, hein, parfois.
Voilà, c'est ça.
Il y a pas, voilà, notre mission, c'est pas de programmer des gens connus ou vus à la télé, a priori. Même si ça peut on s'empêche pas de le faire, mais voilà, l'objectif, c'est d'encourager la création contemporaine. Ouais.
Oui, vous partez, donc il y a à la fois... Bon, c'est intéressant ce que vous avez dit, parce que ce qu'on peut reprocher, je ne dirais pas comment, c'est de retrouver effectivement les gens qu'on voit partout, quoi, qu'on entend partout, et donc faire une offre qui sorte justement de tous ces très connus, entre guillemets, et avoir... et peut-être, du coup...
C'est la richesse de la création.
Facilité.
On est un pays extrêmement chanceux avec tout un maillage artistique
en spectacle vivant notamment, pas que, mais en tout cas en spectacle vivant. Et effectivement, au-delà des noms, des figures populaires, comme on entend aussi ce terme, il y a énormément d'artistes très talentueux
qui émergent.
Qu'on a envie de faire connaître,
et du coup,
bien sûr.
On accompagne.
Même si ce ne sont pas des noms connus.
Et alors là, c'est le travail de marketing. Vous disiez tout à l'heure, on fait du marketing. Effectivement, quand il y a des artistes absolument pas connus, il y a un travail important de
médiation,
de
plus
médiation.
Plus que de marketing.
Oui. C'est elle qui a parlé de marketing tout à l'heure.
Mais alors la question du marketing, c'est la question qui touche une politique de communication, une politique tarifaire. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est une entreprise aussi qui se pose ce type de questions. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tout un travail qu'on fait qui ne relève pas du marketing, mais vraiment de cette envie de cette mission de transmission qui passe par la médiation.
Alors, vous travaillez avec des associations qui... Alors, je pense à Culture du Cœur, que vous devez connaître, bien entendu. Il y a beaucoup de théâtres qui travaillent avec Culture du Cœur, parce que ce qui est intéressant, à mon sens, c'est qu'ils se contentent pas de donner des places. Il y a tout un travail de médiation et d'accompagnement des personnes qui seraient pas allées au théâtre sinon. Et donc, vous travaillez, je suppose, avec des associations. Le Secours Populaire donne des places et fait aussi ce travail-là.
Alors ça, je vais laisser la parole à Amandine parce que c'est vraiment son domaine au sein du théâtre. Mais c'est vrai que parfois, effectivement, de l'extérieur, on se demande pourquoi les équipes sont si importantes à travailler dans les théâtres. Mais voilà, on ne mesure pas qu'il y a tout un travail, notamment de l'équipe, ce qu'on appelle des relations publiques, qui consiste à faire de la médiation, à créer des relations, à créer des projets. Parce que avant que des personnes qui n'ont pas du tout les codes, les usages, l'habitude de se rendre au théâtre, avant qu'elles fassent la démarche de s'y rendre, généralement, il y a tout un travail à faire aussi. C'est pas simplement aller les chercher, les prendre par la main et les amener. On mène des projets avec des artistes qui vont faire de l'atelier, de pratique, qui vont parler de leur œuvre, donner envie de venir la découvrir. Et donc, autour de pas mal de spectacles dans une programmation, en fait, il y a tout ce travail, pas très visible, mais très important, que nous menons.
Oui, c'est ça qui est intéressant. Enfin, à mon sens aussi, c'est tout ce qu'on...
Moi, je dis toujours que mon travail et puis le travail des gens qui travaillent dans mon service, c'est de faire en sorte que les artistes soient vus par le plus grand nombre et par un public le plus divers possible. C'est-à-dire qu'on travaille en direction des comités d'entreprise, mais aussi, on a des projets à l'hôpital de Grasse, à destination des malades de psychiatrie, par exemple. On va à la maison d'arrêt également. On travaille avec des centres sociaux, avec des IME, avec des publics extrêmement différents. L'objectif, étant qu'ils aient du plaisir à venir voir 1, 2, 3 spectacles chaque année, même si au départ, peut-être, ils se sentiraient complètement éloignés de ce qu'on propose. Et puis aussi, qu'ils se sentent bien chez nous. C'est-à-dire, on vient voir un spectacle dans un théâtre, mais c'est aussi une expérience qu'on vit de manière collective, qui commence par l'accueil de la personne de la billetterie jusqu'au bar du théâtre où on peut boire un coup et échanger avec les artistes à la fin. Donc ça c'est notre métier et ce qui nous anime en tout cas.
Mais ça c'est important et c'est vrai que c'est ce que le public comme ça ne voit pas. Et pourtant c'est ce qui permet d'irriguer, j'allais dire, le territoire avec de la culture, quoi, quelle qu'elle soit.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'était doublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'était doublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'était doublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages. te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange, le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
Bonsoir, nous retrouvons donc pour un alter regard. Alors, pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
Alors, c'est un morceau de Clara Easy. Clara Easy, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur énorme quand j'ai découvert cette chanteuse il y a un an environ et que je me suis un peu battue, je dois dire, pour la faire venir à Grasse parce qu'elle a une énorme tournée l'année prochaine. Elle commence par faire l'Olympia à Paris et ensuite elle enchaîne les dates. Donc on est très content de la recevoir à Grasse, ce sera le 10 décembre. Chanteuse extrêmement talentueuse qui écrit ses textes, qui compose ses musiques. Là on vient d'entendre Le Monde s'est dédoublé, mais il faut écouter tout l'album Océanox. C'est très sensible, elle a une voix extraordinaire, hein, on parle souvent, enfin on la compare un peu à Barbara. Elle est très musicienne, ses compositions, ses orchestrations sont très riches. Et les textes, il se trouve que c'est la fille d'une personne qui s'appelait Anne de Fourmentel, qui était philosophe et psychanalyste assez connue et qui malheureusement s'est noyée il y a quelques années en voulant sauver les enfants d'amis à elle. Je raconte cela parce que je trouve que Clara Easy, dans cet album, il y a bien sûr le deuil, enfin on l'entend dans ses paroles, mais il y a le désir, l'appétit de vivre, c'est très beau, voilà.
En fait, vous choisissez, consciemment ou pas, des chanteurs, mais qui parlent, qui ont des choses à dire, qui font, c'est comme une pièce de théâtre, mais ils la chantent, quoi. C'est un peu ça,
La chanson française. Alors, dans la programmation musicale du Théâtre de Grasse, il n'y a pas que de la chanson française, de la chanson à texte. Mais c'est vrai que quand on programme un chanteur ou une chanteuse à texte, oui, généralement, c'est riche. Ça raconte des choses. Avec la musique, en plus. Donc la musique, c'est des grands moments de rassemblement. Enfin, je trouve que c'est des façons d'abord de faire venir des publics un peu différents aussi, parce que c'est pas forcément les mêmes qui viennent au théâtre et qui viennent écouter des concerts. Et puis on a une salle avec une acoustique géniale. Vraiment, on a cette chance. C'est un très bel écrin, le Théâtre de Grasse. Il y a un rapport scène-salle. On est au plus près de l'artiste. C'est des très jolis moments.
Alors, comme vous parlez de l'acoustique de la salle, on m'a posé la question, est-ce qu'elle est équipée pour des malentendants ? Ça tombe comme ça, parce que vous parlez de l'acoustique, je pensais le poser à la fin, mais voilà. Donc, est-ce qu'il y a l'appareillage pour les malentendants ?
Alors oui, on a ce qu'on appelle la boucle magnétique, permet donc une portion du parterre, d'être vraiment mieux... Enfin, de pouvoir être vraiment à l'écoute de ce qui se passe sur le plateau. Donc oui.
D'accord. Et tout. Mais c'est à faire connaître aussi.
Exactement.
Parce que,
voilà. Et autre chose quand même à signaler, c'est que donc ces travaux dont je parlais tout à l'heure du Théâtre de Grasse en 2017, ça a permis d'avoir donc un gradin tout neuf, un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, et donc on a 11 emplacements pour fauteuils roulants. Sur le dernier rang de la salle, donc on peut accueillir 11 personnes handicapées chaque soir de spectacle.
Voilà, c'est pas ce qu'on avait prévu, vous voyez, mais comme vous avez parlé de l'acoustique, je trouvais que c'était le bon moment. Donc effectivement, c'est à faire connaître, parce qu'il peut y avoir une réticence des personnes handicapées à aller au théâtre. Bon, j'entends pas, donc j'y vais pas, ou bien je vois pas bien, j'y vais pas.
On a déjà eu fait par le passé un spectacle traduit en direct en langue des signes française. Mmh. Enfin voilà, on a toutes ces choses possibles dans notre métier. Donc voilà.
D'accord, ben c'est très important de le dire, il me semble. Alors, on parle de demain, là, maintenant. Hein. Demain, c'est quoi? C'est septembre. Donc, la prochaine saison, donc demain. La première, il y avait un peu de rupture. Est-ce que maintenant, on a une vraie continuité? Donc, parlez-nous de la prochaine saison. Comment vous avez construit? Puis, il y a une question. Je disais dans l'introduction, bon, on a Antea, la scène 55. Vous vous rencontrez entre directeurs, vous échangez sur les programmations, sur des choses comme ça?
Ça fait beaucoup de questions. Deux questions importantes. Donc, sur la question de l'échange entre programmateurs, oui, je dirais plus ou moins. Voilà, ça se fait assez simplement avec certains, moins simplement avec d'autres. Mais évidemment qu'on a tous intérêt, je pense, à échanger, à partager, à penser la question des publics globalement sur un territoire. Hein, et donc, voilà, donc c'est plutôt...
Et puis, il y a la question aussi d'organiser, même sur notre département, par exemple, les dates vont s'enchaîner. Il peut y avoir une date à Carros, puis l'artiste arrive à Grasse et poursuit sa route jusqu'à Marseille ou Cavaillon. Donc ça permet aussi déjà de réduire les coûts, effectivement, et puis il y a aussi l'empreinte écologique qui est vraiment une question quand même à se poser par les temps qui courent. Donc bien ça sûr. Impose aussi finalement de travailler ensemble.
Enfin, bien sûr, on y est de plus en plus incité et je dois dire que ça se fait depuis longtemps de manière assez naturelle aussi, de travailler, de partager, de coprogrammer ensemble. Alors évidemment, il peut y avoir des questions de proximité et selon les spectacles, on n'a pas forcément intérêt à programmer dans deux lieux très proches, le même spectacle, le même mois de l'année. Mais bon, en dehors de ce genre de choses, on travaille beaucoup en réseau avec les autres professionnels, bien sûr.
Oui, parce que sur le territoire, bon, il y a, disons, éviter la concurrence, quoi. En gros, c'est ça, quoi, surtout.
Oui, mais même que ce terme de concurrence est presque un peu dépassé. Enfin, je pense qu'il faut, par les temps qui courent, hein, parce qu'on, voilà, on peut aussi se dire que la situation, le contexte global est loin d'être rassurant, que de toute façon la crise économique est là, on n'est pas un secteur à part, on n'est pas épargné. Je crois qu'on a plutôt intérêt à travailler ensemble que les uns contre les autres. Je pense que c'est dans l'intérêt des artistes, c'est dans l'intérêt du public et dans l'intérêt des artistes.
Et puis, originellement, finalement, sur le territoire, il y avait le Théâtre de Grasse et le Centre Dramatique de Nice. Aujourd'hui, il y a une offre bien plus importante. Et finalement, c'est tant mieux pour le public qui circule à travers tous les lieux. En fait, on le voit bien. Nous, hein, on a des gens qui s'abonnent chez nous et peut-être l'année d'après vont aller lorgner du côté de Mougins et puis revenir à nous. Enfin voilà, il y a tous ces mouvements.
Au gré des saisons, voilà. Au gré des envies, de ce que leur dit la programmation ou leur dit moins.
Donc, alors, parlez-nous de la programmation. Allez, parlez-nous un peu de la programmation de la prochaine saison.
Alors, c'est une programmation très, très, très variée, très riche, avec du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, pas mal de propositions donc qui s'adressent aux familles, même si c'est pas le cas de toutes. Hein, je ne fais pas une programmation exclusivement familiale.
Il y a de l'humour aussi.
Il y a de l'humour aussi. Alors j'aime bien dire au sujet de l'humour que bien sûr on programme des humoristes, mais on programme aussi des spectacles extrêmement drôles et qui ne sont pas
catégorisés
humour, stand-up, etc., mais qui sont quand même drôlissimes. Je pense que les spectateurs de la saison passée peuvent en témoigner et ce sera le cas aussi dans la saison qui vient. Vous voyez par exemple un spectacle comme Les Gros patinent bien. C'est un spectacle de théâtre, un cabaret de carton avec deux hommes de théâtre, des comédiens c'est un spectacle extrêmement extrêmement comique. Il y a des artistes programmés qui sont vraiment ce qu'on appelle des artistes un peu un peu compagnons, des artistes complices, en tout cas des artistes que j'ai envie d'accompagner dans la durée. Ça veut dire les aider en création, effectivement, on en parlait tout à l'heure, leur donner des moyens pour créer leur spectacle, à la fois des moyens financiers, des moyens en temps et en accueil technique sur notre plateau. Et du coup, on a envie derrière, évidemment, de montrer le travail et de les programmer. Donc là, il y a un certain nombre d'artistes dont c'est le cas, notamment Lamine Diagne, avec le spectacle français qui sera présenté en fin janvier au Théâtre de Grasse. Ce sera l'une des premières. Et on a, tous ces derniers mois, accompagné cet artiste pour la création de ce spectacle qui va porter sur une thématique assez sensible, mais qu'il va traiter avec beaucoup de... je dirais, de distance, tout en parlant de récits intimes, sur la question de son rapport à la décolonisation, hein, enfin, en tout cas, à l'histoire coloniale, et comment lui, en tant qu'afro-descendant, voilà, de pays colonisés. Voilà, c'est un spectacle qui porte sur cette thématique.
Alors, ces artistes que vous accompagnez, ça peut être sur plusieurs saisons aussi ou...
Tout à fait. C'est sur plusieurs saisons.
Sur plusieurs saisons.
Et oui, parce que on se rend pas forcément compte, mais la création d'un spectacle prend du temps. Mmh. Et tant mieux d'ailleurs, et il faut laisser ce temps, parce que c'est aussi généralement garant d'une certaine qualité. Donc oui, quand on accompagne le travail d'un artiste, c'est généralement sur 2 ans, 3 ans.
Et donc vous le programmez tous les ans, enfin, peut-être pas la première année, mais on retrouve cet artiste, parce que pour le spectateur, c'est aussi intéressant de faire un suivi, là aussi un compagnonnage avec un artiste, de la part des spectateurs aussi, qui reviennent.
Donc avec Lamine Diagne, qui est donc un artiste dont la compagnie est basée à Marseille, compagnie Lénel, il était dans la programmation qui vient de s'écouler, on l'a reçu avec des contes pour enfants. Spectacle qu'on a donné d'ailleurs en itinérance dans les villages du territoire et sur le plateau du théâtre pour les petits et pour les tout petits, parce qu'il a aussi cette corde à son arc. Et cette nouvelle création française, elle n'est pas du tout justement dédiée au jeune public, hein, c'est vraiment une pièce pour tous, mais plutôt à partir de 14-15 ans. C'est intéressant. Et on l'a également reçu, Lamine, dans le collectif Kay, qui est venu en avril dernier faire tout un travail d'atelier autour du graph, du hip-hop, du rap, enfin, de ces cultures urbaines pendant les vacances scolaires, et qui a débouché sur une performance qu'on a donnée sur le cours Honoré Crespe. Voilà, donc effectivement, quand on accompagne un artiste, généralement, on va piocher dans son répertoire, déjà pour lui proposer de diffuser plusieurs de ses pièces quand il en a déjà plusieurs, et on accompagne ses créations.
Et puis je pense que ce qui est intéressant dans les saisons qu'on propose là, c'est que les gens peuvent vraiment effectuer des parcours, c'est-à-dire que les gens qui aiment le théâtre vont pouvoir passer d'une adaptation absolument géniale du Malade imaginaire à un spectacle dont Emmanuel parlait là, qui est très drôle, qui s'appelle Les gros patinent bien, en janvier, pour aller découvrir donc par exemple Lamine Diagne sur vraiment une écriture contemporaine, et ils pourront terminer leur saison sur le Pré de Saint-Vallier avec une grande forme de théâtre de rue par une compagnie qui est hyper connue dans le monde de la rue, qui s'appelle Les 26 000 couverts. Le spectacle s'appelle Véro, première d'Angleterre. En danse, c'est pareil, les gens vont pouvoir aller de la danse contemporaine jusqu'au hip-hop. Voilà, en passant par d'autres esthétiques, en musique c'est pareil, le champ est hyper ouvert. En cirque, n'en parlons pas, puisqu'on va passer d'un spectacle sous chapiteau, il y aura de l'acrobatie et de la musique classique, ça c'est Les Rois Vagabonds dont Emmanuel parlait, mais les gens vont pouvoir aussi découvrir un spectacle qui va mettre le trampoline à l'honneur. Et un peu plus tard en avril, ce sera de l'art funambule avec une formidable acrobate qui va faire du funambulisme à plusieurs mètres de hauteur. Enfin voilà, c'est ça aussi, on propose finalement des traversées à travers les arts au sein d'une même discipline. Donc voilà, c'est un peu tout le charme de l'exercice.
Si nous sommes, si nous...
Bonsoir, nous retrouvons donc pour un alter regard. Amandine, pourquoi ce morceau ?
Alors c'est un morceau du groupe Lagon Noir que les gens pourront découvrir le dimanche 30 mars à 18h au Théâtre de Grasse. Et c'est un groupe extrêmement intéressant parce que ça mélange le maloya, le jazz, la pop de manière assez intéressante. Et c'est porté par une femme, donc c'est pas neutre en fait tout ça. Il y a quand même un petit quelque chose de féminin qui relie les trois extraits musicaux là qu'on vient d'entendre. Une magnifique chanteuse qui s'appelle Anne O'Haro, voilà, et qui chante en français mais aussi en créole, et qui est entourée donc de trois musiciens, saxophone, basse et batterie.
D'accord. Alors vous avez dit à 18h.
Oui.
Et les horaires, là, l'importance, on a le choix de l'horaire.
Alors, la majorité du temps, ce sont des spectacles qu'on propose à 20h, qu'on soit au théâtre ou hors les murs. Et on aime bien, parfois, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui pourraient s'empêcher de sortir le soir pour plein de raisons. On aime bien proposer des spectacles le week-end aussi. Par exemple, ça peut être le samedi à 16h ou le dimanche à 17 ou 18h. Voilà, ce qui peut permettre de toucher un autre public ou voilà, des gens qui sont seuls et qui n'aimeraient pas sortir le soir. Voilà. Viennent en après-midi au théâtre. Donc, ce qu'on appelle les matinées, en fait, dans ce
milieu. Les matinées, oui, ça permet de répondre encore à un public différent.
Exactement.
Alors, je voulais faire un focus sur les jeunes, parce que dans mon introduction, dans l'étude Médiamétrie, ils y constataient qu'il y a beaucoup de jeunes, et plus de jeunes, au théâtre. Donc, est-ce que vous attribuez ça au pass culture, à la programmation peut-être aussi, sans doute. Voilà, comment est-ce que vous constatez d'ailleurs sur Grasse aussi qu'il y a plus de jeunes et comment vous à quoi vous attribuez cette meilleure fréquentation par les jeunes?
Écoutez, oui, je pense que la programmation fait quand même une grande part des choses, même si le pass culture est un outil qui permet aux jeunes d'avoir un budget pour des pratiques artistiques ou culturelles. Et qu'au Théâtre de Grasse, bien sûr, nous accueillons le pass culture comme moyen de paiement. Depuis qu'il a été mis en place. Je crois que la programmation fait beaucoup. La programmation ne peut pas être seule d'ailleurs. C'est, comme on le disait tout à l'heure, tout un travail dans une équipe de théâtre pour aller toucher les jeunes. Moi, c'est vrai qu'à mon arrivée à la direction, j'en ai fait une priorité. Amandine peut en témoigner et son équipe, je leur ai dit, je souhaite vraiment que l'on travaille cet axe-là. Je souhaite voir des jeunes venir en soirée et pas uniquement sur les représentations scolaires, parce qu'évidemment, les représentations scolaires sont par définition complètement fréquentées par des jeunes, mais c'est emmenés par leurs professeurs. C'est pas la même démarche que de se rendre au spectacle le soir, le week-end, sur son temps libre. Et donc, c'est une démarche plus complexe, mais on travaille beaucoup dans cette direction.
D'autant que Grasse est la ville la plus jeune du département.
Hein, exactement. Donc, je vous rappelle qu'il y a quand même à Grasse 5 collèges, 5 lycées, beaucoup d'écoles primaires. Alors, quand on parle des jeunes, moi, c'est vrai que c'est cette tranche adolescente ou jeune adulte qui, je pense, doit être particulièrement faire l'objet de notre attention, puisque c'est à ce moment-là qu'on va, comme on dit, former le futur spectateur, même si on peut devenir nouveau spectateur à tout âge. Ça, c'est une évidence. Mais plus on aura des jeunes qui vont développer un goût pour le spectacle vivant, plus on formera évidemment les publics de demain. Et c'est vrai que je pense qu'au Théâtre de Grasse, on a réussi ça. J'observais il n'y a pas longtemps dans nos chiffres de billetterie, un peu rapidement, qu'on avait près d'un tiers du public de la saison là qui vient de passer, qui a moins de 26 ans. Donc c'est quand même quand on met ça, il faut regarder, il y a des jeunes qui viennent en famille avec leurs parents, mais en tout cas on est très attentif à cette question. Et concernant le pass culture, effectivement tous les moyens nouveaux du ministère sont allés dans cette mesure. Donc c'est une grande question qu'on peut se poser. Faut-il mener plutôt une politique de l'offre ou une politique de la demande? Bon, là, c'est vraiment la politique de... Voilà, les moyens sont mis sur cet outil qui est un outil de demande. On sait aujourd'hui que c'est pas forcément le spectacle vivant qui en bénéficie en priorité dans les choix que font les jeunes, mais en tout cas nous on l'actionne beaucoup aussi sur le plan collectif, puisque il y a bien sûr cette bourse que reçoit le jeune quand il atteint 18 ans, mais il y a aussi des moyens qui sont allés au collège et au lycée en fonction du nombre d'élèves et qui ont apporté des moyens supplémentaires qui viennent en complément des nôtres, de ceux d'un opérateur comme le Théâtre de Grasse, donc qui viennent en complément pour développer toujours plus ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle. Et c'est vrai qu'il est important de rappeler qu'on a la chance en Pays de Grasse d'être sur un territoire labellisé 100% éducation artistique et culturelle, ce qui veut dire que la collectivité se donne des objectifs, se donne des moyens pour que tout élève, du plus jeune jusqu'au lycée, bénéficie chaque année d'une action artistique. Et c'est important, et le Théâtre de Grasse fait partie de cet écosystème.
Et merci beaucoup. si vous vouliez rajouter autre chose.
Non, vous remercier la Radio Agora de nous offrir ce temps de parole, parce que c'est important de pouvoir prendre le temps de décrire nos équipements. Donc merci.
Voilà. Alors, on donne des informations.
Alors, la billetterie est ouverte. On a ouvert donc les abonnements le 14 juin dernier. Donc, ça continue, puisqu'en fait, on n'a pas vraiment une formule d'abonnement aussi figée que dans d'autres lieux. Les gens achètent une carte qui leur permet ensuite d'avoir des réductions et ils peuvent ajouter des spectacles tout au long de l'année. Et le 10 septembre, les gens pourront cette fois-ci acheter les places pour tous les spectacles de la saison, donc hors carte ou hors abonnement.
Il y a un site internet, j'imagine.
Oui, donc c'est www.théâtredegrâce.com et si les gens préfèrent nous appeler, c'est le 04 93 40 53 00.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Et puis, bon spectacle pour toute cette saison.